Nous allons continuer ce sujet sur le repos et je voudrais lire avec vous trois textes, s'il vous plaît. Vous garderez le premier avec un marque-page parce qu'on terminera avec Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est un homme qui a beaucoup souffert Jérémie. D'ailleurs, on connaît Jérémie pour ses lamentations, justement, ouais, qui exprime de beaucoup de souffrance. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, c'est un homme qui a beaucoup souffert. C'était le plan de Dieu pour lui. Il a vu beaucoup de souffrance, il a vu beaucoup de misère. Et cette misère l'a affecté, car nous sommes affectés par les choses que nous côtoyons. Nous, ce que nous voyons, on peut le déposer, mais ça nous affecte. Ça nous affecte et on a besoin de faire une nouvelle expérience avec Dieu. Donc, dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, on va lire à partir du verset 15, parce que c'est un homme qui est envahi de douleur. Ça vous est déjà arrivé ? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Et il y a un mot qui revient très souvent dans la parole de Dieu, c'est le mot « rassasié ». Parce que de la même manière que notre corps se rassasie de nourriture, notre âme peut être rassasiée aussi de mets succulents ou pas. En ce qui concerne Jérémie, à ce moment-là, il est dans un moment, il doit prendre une décision. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Vous savez, l'absinthe, c'est amer. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Vous avez vu que rien que ces quatre versets, ça fait quand même beaucoup. Et ça exprime ce qu'un homme est en train de vivre. Et pourtant, il aime Dieu. La preuve, c'est qu'il est en communion avec Dieu. La preuve, c'est dans la parole de Dieu. Voyez, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et regardez comment il réagit. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Retenez bien le verbe. Je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux, de nouveau, il exprime sa volonté. Je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Et nous voyons comment un homme peut passer d'une amertume, du chagrin, de la détresse à cette espérance parce qu'il la reçoit. Il veut. C'est quelqu'un qui veut. Il y a deux verbes, deux fois au verset 21 au verset 24. Je veux repasser. Je veux espérer. Combien c'est important. On y reviendra tout à l'heure. Gardez la page. Mais en tous les cas, c'est un texte où vous pouvez méditer. Dans le psaume 34, David exprime une pensée. Il y a beaucoup de pensées dans le psaume 34, mais il y a une pensée que j'aimerais voir avec vous ce matin qui correspond bien à la prédication. Psaume 34, verset 9. Regardez ce qu'il demande. Il y a deux verbes, là aussi, qui indiquent que l'on peut expérimenter la faveur de Dieu. Psaume 34, verset 9. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce verset. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous entendez ? C'est une exhortation. Est-ce que vous avez senti ? Est-ce que vous avez goûté ? Est-ce que vous avez vu que l'Éternel est bon ? Dans la première épître de Pierre, il présente un petit peu la même chose. C'est dit différemment, mais on va le lire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à verset 4. Regardez bien. On va lire jusqu'au verset 3, ça suffit. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. C'est une exhortation. Il nous est demandé de désirer certaines choses, mais il nous est en même temps, il y a en même temps une interrogation. Alors regardez, 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si, regardez bien, si, donc il y a une condition. Certains chrétiens ont, d'autres n'ont pas. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc j'ai donné comme titre à ma prédication, avez-vous goûté, senti et vu que le Seigneur est bon? C'est une question. Pourquoi? Parce qu'elle elle intervient dans ce sujet sur comment entrer dans le repos. C'est une question que je nous adresse à tous. Avez-vous goûté? Avez-vous senti? Avez-vous vu que le Seigneur est bon? C'est des questions, puisque si vous avez goûté, les chrétiens qui ont fait quelques expériences, ils peuvent dire oui, Dieu si, mais ils n'ont pas goûté à la bonté du Seigneur. Alors ça les pénalise énormément. Vous avez vu, souvent dans la Bible, si vous l'avez lu, maintes fois revient sans cesse ce fait d'être rassasié. Vous avez vu, Jérémie dit, mais je suis rassasié d'amertume. C'est terrible quand les circonstances adverses font qu'on est tellement affligé qu'on peut dire « je suis affligé d'amertume ». C'est sûr qu'il est temps de réagir. Si vous êtes affligé, découragé tout le temps, il est temps de réagir comme l'a fait Jérémie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est inspiré et donc dans les Saintes Écritures. Mais vous avez remarqué que tout le long, la parole de Dieu nous révèle d'une façon ou d'une autre que la parole est une nourriture. Vous avez vu? Il m'a rassasié, Jésus dira « je suis le pain de vie », il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il doit y avoir des centaines et des centaines de versets, « les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, si quelqu'un a soif, il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer près des verts pâturages, il restaure mon âme, la Bible parle des mets succulents et gras, vous puiserez de l'eau, source du salut ». Enfin, c'est infini. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, celui qui, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi, et si quelqu'un soit, celui qui où entre, eh bien, il mangera, il soupera avec moi. » On le voit, David dit dans un psaume, « mon âme est rassasiée comme de mes gras et succulents. » Regardez tout l'enseignement qui est lié à la manne, c'est impressionnant combien Dieu veut que nous comprenions bien que sa parole est comparée à une nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? C'est même pas la peine. Même quelqu'un qui a découvert l'évangile depuis peu a très bien compris que de la même manière qu'on nourrit son corps, il est absolument important de nourrir son âme. Mardi soir, j'ai terminé avec cette pensée, je crois qu'elle est dans le livre de Job, où justement Dieu parle de ceux qui meurent de faim au milieu de l'abondance. Et ça, c'est une autre affaire, car c'est ce que l'on risque de constater une fois qu'on partira dans la gloire, de réaliser qu'il y avait une abondance spirituelle pas possible et que nous sommes morts de faim au milieu de l'abondance. J'en suis persuadé que beaucoup de chrétiens ne se nourrissant pas meurent de faim alors qu'il y a une abondance extraordinaire. Elle n'y est peut-être pas au niveau matériel, mais laissez-moi vous dire que Jésus est capable de vous donner une vie pleine d'abondance spirituelle. Et que si vous souffrez de faim, c'est que vous ne prenez pas suffisamment le temps de vous nourrir de la parole de Dieu qui ne peut que vous rassasier. Même si la vie est faite d'épreuves qui peuvent à un moment donné, eh bien nous rassasier au contraire de difficultés, comme on vient de le lire dans les lamentations de Jérémie. Oui, Paul dira, je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide. On voit bien qu'il peut y avoir un gros décalage entre ce que Dieu voudrait faire, nous donner de la nourriture solide, mais qu'il est obligé de nous donner du lait parce que nous sommes spirituellement comme des enfants. Un enfant de 3 mois, on ne lui donne pas une entrecôte. Bon, mais c'est pareil, Dieu avec nous fait de la même chose, il ne nous donnera pas de la nourriture solide s'il voit que nous ne grandissons pas avec lui. Mais retenez ce verset, ceux qui meurent de faim au milieu de l'abondance. Si vous faites partie de ces personnes, vous allez être énormément pénalisé. Je reviens à Caroline, puisqu'elle a donné son témoignage, elle a résumé, elle ne vous a pas tout dit, mais j'ai vu Caroline dans des moments difficiles. Je l'ai vu dans des moments où elle doutait, où elle était en difficulté, et je lui ai dit, mais Caroline, il vous faut faire confiance à Dieu. Il sait ce qu'il vous faut. C'est sûr qu'une jeune fille de 26 ans qui ne peut plus travailler se trouve en difficulté. Mais est-ce que vous croyez que Dieu savait qu'elle aurait une tendinite à l'épaule? Est-ce que vous croyez qu'il y a un poste qui se libérerait à la médecine du travail? Vous aurez peut-être l'occasion de me rencontrer, Caroline. C'est possible. Voilà. C'est important de maintenir une foi vivante. Et je répète ce que je dis en filigrane depuis que j'ai repris. Écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez-le bien, parce que ça tient qu'à ça en vérité. Tout ce que j'explique tourne autour de ce noyau. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais ils ne lui font pas confiance. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que je pense vraiment que c'est beaucoup plus simple que ce que nous pensons. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne douteront jamais de l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut faire à partir du moment où ils ne lui font pas confiance? Et c'est ce que je voudrais vraiment que nous découvrions, que nous redécouvrions, que nous améliorions dans notre vie, que nous croyons en Dieu. C'est bien, je pense que si on est dans une église ce matin, c'est qu'on croit en Dieu. Oui ou non? Tous les gens qui sont là, vous croyez en Dieu. J'ai presque envie de dire, tous les gens qui sont là, vous aimez Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, déjà, ce n'est pas sûr. Mais je ne suis pas sûr que tous vous faites confiance à Dieu. Et c'est de ma responsabilité de vous amener à faire confiance à Dieu afin que vous entriez vraiment dans le repos de la paix. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Car si vous ne faites pas confiance à Dieu, il va y avoir ce problème. Si Pierre dit, si vous avez goûté, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas goûté que Dieu est bon, intrinsèquement bon, parce qu'il est plein de bonté, avez-vous goûté sa bonté? C'est l'Ecclésiaste Salomon qui dit dans sa parole, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Qui sait ce qui est bon? Vous pensez que ça c'est bon pour vous? Oui? Qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous? Si on vous triplait le salaire, tiens, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? On vous triple le salaire. Est-ce que c'est bon? Oui, bien sûr, je suis sûr que vous allez le prendre. Mais est-ce que vous êtes absolument sûr que ça sera bon pour vous? Pas forcément. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Alors les stagiaires, on va leur couper le salaire pour voir. Hein? On va voir comment ils vont dire. Et vous allez me le donner à moi. Hein? D'accord? C'est pour cela qu'il faut comprendre ce texte que j'ai souvent utilisé dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. On le lit, s'il vous plaît, lisons-le. Parce que moi, c'est ce verset qui m'a aidé à comprendre toutes les épreuves. Parce qu'on peut avoir des épreuves dans tous les domaines. Vous entendez? Dans tous les domaines, on peut avoir. Et ça, il faut commencer à l'accepter. Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 2, 3 et 4. C'est un texte qu'on devrait tous apprendre par cœur. Je pense qu'il y a des textes, ce n'est pas grave si on ne les connaît pas. Si vous ne comprenez pas tout le Lévitique, votre livre préféré, ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas toutes les prophéties d'Ézéchiel, ce n'est pas grave. Mais ce texte-là, il faut que nous le comprenions. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, mes sœurs, bien sûr, vous êtes incluses, croyez-moi. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve, alors il faut que ça devienne l'épreuve de votre foi, parce que ça peut ne pas être l'épreuve de la foi, ça peut être l'épreuve tout court. Il faut qu'une épreuve, quelle qu'elle soit, devienne une épreuve de la confiance. L'épreuve de votre foi, qu'est-ce que Dieu veut qu'elle produise? La patience. Est-ce que vous êtes patient? Pas suffisamment? Nous ne sommes pas suffisamment patients, donc nous connaîtrons des épreuves pour apprendre la patience. Nous apprendrons pas la patience en disant au Seigneur, donne-moi la patience directement. Ça passera par des épreuves. Soyons sérieux. Mais il faut, ça aussi c'est un impératif, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Car je l'ai dit mardi, le but de Dieu, c'est pas que nous soyons continuellement bénis, le but de Dieu, Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Le but de Dieu envers nous, je l'ai dit, c'est pas que nous ayons les doigts des orteils en éventail, sur un sofa. Le but de Dieu, c'est que nous soyons perfectionnés, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves, bon, c'est vrai qu'après il est dit si quelqu'un manque de sagesse, c'est clair que pour se réjouir de ses propres épreuves, il faut un minimum de sagesse. Mais déjà, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce qu'on est parfois tordus. On peut penser aux épreuves des autres et se réjouir des épreuves des autres. Tiens, est-ce que c'est pas vrai ça? Allez, On ferme les yeux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai que parfois, soyons honnêtes, parce qu'on est sous le regard de Dieu, on dit, tiens, il lui arrive ça, tiens, ça, il fait du bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous l'avez pas pensé? Est-ce qu'on n'a pas pensé? Moi, je l'ai pensé souvent. Moi, j'ai pensé. Et je peux vous dire que gardons-nous de ça. Parce que les seules épreuves dont on peut se réjouir, ce sont les nôtres. Déjà, je peux vous dire que nous sommes gardés et protégés lorsqu'on commence à dire, bon, je traverse cette épreuve, je l'accepte. Parce que les épreuves, il y a des domaines, il y a des gens qui n'acceptent, qui ont énormément de mal avec les épreuves physiques. Quand ils sont malades dans leur corps, ils n'ont pas goûté la bonté du Seigneur dans la guérison, ça fait qu'ils sont en bagarre avec eux-mêmes, en bagarre avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas expérimenté la guérison. Donc, quand ils traversent la maladie, ils sont vraiment en difficulté. D'autres ont été guéris deux ou trois fois, ça fait que quand ils sont malades, ils traversent ça dans un repos total, parce qu'ils ont goûté que Dieu est bon dans le domaine de la guérison. Ainsi de suite, on pourrait multiplier, on en aurait pour une heure, à multiplier tous les cas de figure. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous demandions à Dieu du discernement, parce qu'on est dans le domaine de l'esprit, mais je peux vous dire, écoutez, moi j'en ai suffisamment souffert, que beaucoup de chrétiens au nom de la vie de l'esprit font et disent absolument n'importe quoi. Regardez, mardi, je prends l'exemple qu'on a pris mardi, je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. Regardez, Jacob a dû traverser une épreuve à Péniel. Il a traversé des épreuves, mais à Péniel, c'est particulier, parce qu'à ce moment-là, il est devenu un vainqueur. Vous le savez, Dieu a changé son nom, c'est extraordinaire, quand le cursus nous amène à un moment donné où Dieu peut changer notre nom, c'est-à-dire notre caractère. C'est extraordinaire quand Dieu dit « tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël ». Spirituellement, c'est merveilleux. Mais voyez par exemple, combien de gens j'ai dit « oh, si tu es dans la victoire, tu verras, tu n'auras plus d'épreuves ». Laissez-moi vous dire, si vous avez lu la Genèse, que Jacob, malgré le fait qu'il soit vainqueur, a eu peut-être encore des épreuves plus sévères après qu'avant. Mais il les a traversés avec beaucoup de tendresse, ce qui n'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on lui a dit que son fils Joseph était mort tué par une bête, qu'on lui a menti, que tous ses gosses lui ont menti, mais c'était pas une épreuve ça? Cet homme, il a été torturé et puis Dieu ne lui a pas parlé. Et pourtant, il était dans la victoire parce que Dieu ne luttait plus avec lui. Vous savez, tant qu'il y a des choses dans notre vie qui déplaisent à Dieu, Dieu va lutter avec nous, pas contre nous, avec nous pour nous défaire. Parce que Jacob, il croyait en Dieu. Bon, on le voit, même après cette affaire que Dieu lui a parlé, Dieu lui a fait des promesses, en veux-tu, en voilà, Dieu lui a fait des promesses extraordinaires, mais il continue à magouiller, à calculer, à dire, voilà, ça, si ça se passe comme ça, si mon frère revient, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Dieu lui a parlé, mais il ne lui fait pas confiance. On le voit dans sa manipulation. Mais où je veux en arriver? Je veux en arriver au fait que Dieu sait les épreuves qu'on doit traverser. Et ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on n'est pas spirituel. Quand on traverse une épreuve, on entre dans un processus. Regardez, Dieu est obligé de lui démettre la hanche pour qu'il arrête de se débattre avec ses propres forces. C'est l'image du fait que... parce que est-ce que l'ange aurait pu lui démettre la hanche les trois premières secondes? Mais bien sûr, il a attendu toute la nuit, ça indique que Dieu peut passer des années à lutter avec nous parce qu'on n'a pas cédé sur un point, ça peut être la personnalité qui est très forte chez quelqu'un, ça peut être les talents, ça peut être tout ce que vous voudrez. Jacob a eu la hanche démise. Jacob a boité toute sa vie. Vous êtes d'accord? Quand il meurt, on le voit dans Hébreux 11, il dit qu'il bénit ses fils, vous voyez, il meurt en prophétisant, il meurt en bénissant, comme quoi, vous voyez, qu'on peut changer dans la vie. Et il meurt appuyé sur son bâton, donc il a boité toute sa vie. Sans vouloir exagérer, aujourd'hui, puisqu'on croit en la guérison, et j'espère que vous croyez en la guérison, on dirait tous, attends, mais ce gars, quand même, son grand-père, c'est Abraham, Seigneur, guéris-le! Est-ce que Dieu avait le pouvoir de guérir Jacob? Est-ce que Dieu l'a guéri? Mes frères et sœurs, si nous voulons avancer dans le repos de la foi, il est hors de question d'avancer sans le discernement. Parce que ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas quelqu'un que la personne n'est pas bénie. Et nous, on est focalisés là-dessus. Moi, je crois à la guérison. Je crois, moi, quand Caroline est venue me trouver, mais je savais que Dieu pouvait lui donner un travail qui correspondrait à ce qu'elle avait besoin. Je le sais que Dieu peut guérir n'importe qui, mais Dieu peut reprendre quelqu'un. Jean-Baptiste, il a été décapité. Quelle mort, franchement, c'est une mort épouvantable. Il avait 30 ans. Est-ce que Dieu pouvait empêcher Hérode de le décapiter? Mais bien sûr. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que nous, le mouvement de l'esprit, parce que nous voulons être un mouvement de l'esprit, parce que nous avons manqué de discernement, nous avons fait parfois plus de mal que de bien, parce que nous avons manqué de discernement. Et c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu, demander de la sagesse. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi du discernement? Parce que Dieu agira tantôt avec une personne et différemment avec une autre. Il n'a pas guéri Jacob. Et Jacob était un homme transformé, changé. Qu'est-ce que c'est qui est important? C'est que cet homme devienne tendre. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on devienne de plus en plus tendre avec lui. C'est important pour vous de devenir, de changer. Alors, c'est pour vous donner un aperçu pour la compréhension des épreuves. Parce qu'il y a des gens avec les épreuves, ils sont dans un blocage spirituel. Pas possible. Certains d'ailleurs ont rétrogradé et abandonné Dieu et tout envoyé balader parce que ils n'acceptaient pas les épreuves. Dieu sait ce qui est bon pour l'homme. L'homme, il ne sait pas ce qui est bon. Vous savez pas ce qui, vous savez, vous pensez vous que ça serait bon et vous pouvez dire, oh Seigneur, donne-moi ça. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Cette semaine, je mangeais avec un pasteur que je connais depuis longtemps. Enfin, il est pasteur depuis quelques années. Ce pasteur, moi, jamais, je l'aurais fait rentrer à le ministère. Jamais. Et d'autres personnes, je les aurais faites rentrer dans le ministère, c'est évident. Mais je peux vous dire que quand on voit 10 ans, 20 ans, 30 ans après, comment quelqu'un est capable de changer dans les épreuves et d'apprendre. Et comme quelqu'un, entre guillemets, de très bien, est capable de s'aigrir dans l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que Dieu qui voyait. Il n'y a que Dieu qui voyait que ce gars, complètement mais perdu, mais chaque fois qu'il traversait une épreuve, il apprenait et il grandissait. Heureusement que cet homme a eu des épreuves, parce qu'aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Vous voyez, s'il n'avait pas eu d'épreuves, il serait resté avec son sale caractère. Il aussi, c'est un ami très proche. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire de voir comment Dieu peut changer quelqu'un. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? C'est une question sérieuse. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est bon? Un chrétien me disait cette semaine, moi l'idée que je me fais de Dieu, c'est un Dieu dur, un père fouettard. Mais ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu ne pouvait pas faire autrement. Et vous savez, quand Dieu dit « tu ne te feras pas d'idole », c'est de l'idolâtrie, ça, parce que quand on se fait l'idée d'un Dieu dur, sévère, Dieu est sévère, mais il n'est pas que sévère, il est d'abord bon. Et très bon. Mais ce garçon avec qui je discutais, avec une discussion très profonde, me disait qu'il voulait découvrir ce Dieu qui était bon, puisque moi je savais que j'allais partager ce sujet en plus. Et combien on peut présenter une image de Dieu idolâtre? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Croyez-moi, mes frères et sœurs, tu ne te feras point d'image de Dieu. Et si vous pensez que Dieu est un père fouettard, vous avez fait de Dieu une idole, qui n'est pas le Dieu que la Bible nous présente. Alors, c'est important de découvrir sa bonté. Des chrétiens ne l'ont pas découvert. On le déduit, puisque Pierre dit, si vous avez goûté. Donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas goûté à la bonté du Seigneur. Oui, on peut le chanter. On a chanté ce matin des cantiques extraordinaires. Vous avez certainement vu la courbe dans les chants qui ont été choisis par rapport au nom de Dieu. C'était extraordinaire. Est-ce que vous étiez d'accord avec tout ce que vous avez chanté ce matin? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce que l'on chante, mais comme je l'ai souvent dit, quand on parle après, on se rend compte que l'on ne pense pas ce que l'on chante. Ou alors il y a un gros problème d'éclairage. C'est ça, c'est certain. Parce que ce que l'on parle est plus important que ce que l'on chante, ce que l'on dit. Vous êtes d'accord avec moi? Si je chante « Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon » et qu'après je sois tout le temps en train de me plaindre, vous pourriez me dire « mais il y a un gros décalage entre ce que vous dites, enfin entre ce que vous chantez et ce que vous pensez. » Si je crois que Dieu est tout puissant, si je le crois, Dieu tout puissant, j'aime cette expression, il est le Dieu tout puissant, ça veut dire qu'il est omniscient, qu'il connaît tout, qu'il sait tout. Est-ce que vous croyez que Dieu est omnipotent? Il peut tout. Est-ce que Dieu peut tout? Bon. Si Dieu peut tout, il sait exactement ce qui est le mieux et ce qui est le plus utile. Oui ou non? Il le sait. Ça ne peut pas être autrement. Comme je disais tout à l'heure, moi, si je vous disais, tiens, on va vous tripler le salaire, de suite. Mais peut-être que ce n'est pas du tout ce qui va vous approcher de Dieu. Peut-être que ça va vous en éloigner complètement parce que vous vous appuierez sur votre aspect pécunier et vous ne vous appuierez plus sur Dieu. Alors qu'il y a des gens, on peut les enrichir tant qu'ils veulent, ça ne les éloignera pas de Dieu. Il y a des gens, dès qu'ils ont 100 euros de plus par mois, ça y est, ça suffit pour les éloigner de Dieu. C'est vrai ce que je vous dis, je vous assure que c'est vrai. Et comme on l'a partagé tout à l'heure, oui, l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur. Voilà, parce que vous pouvez dire une bêtise. Est-ce qu'on peut dire des bêtises? Et se corriger quand on la montre. Vous pouvez dire une bêtise et empirer une fois qu'on vous l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. C'est vrai que les circonstances, quand même, il y a des circonstances dans la vie. De temps en temps, on est bien obligé d'y regarder. Est-ce que Jérémie a regardé aux circonstances? Eh oui. C'est rassurant de voir comment les circonstances ont pu affecter cet homme qui pourtant était vraiment un homme de Dieu. Alors, il y a la puissance de Dieu et il y a les circonstances. Ce n'est pas parce qu'on parle de la puissance de Dieu qu'on va occulter les circonstances. Elles y sont, c'est incontournable. Si on prend le psaume 31, venez avec moi dans le psaume 31. C'est un psaume de David, où David, bien sûr, traverse des moments difficiles. Comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, nous traversons des moments difficiles. Regardez cet homme, ce qu'il dit, par exemple, le verset 8. C'est un psaume inspiré. Ça vous prouve une chose, c'est que malgré la souffrance, ils ont surmonté le mal par le bien. S'il n'y avait que la souffrance et l'amertume, ça ne serait pas inspiré. Psaume 31, verset 8. « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Est-ce qu'un chrétien peut avoir des angoisses? Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Vous voyez ce combat qu'il y a entre cette souffrance et cette foi. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force est épuisée à cause de mon iniquité, mes os dépérissent. Enfin, c'est quand même la description de quelqu'un qui est dans une grande souffrance. Au verset 23, regardez, parce que quand on souffre, on se précipite dans les paroles. Et regardez ce qu'il dit au verset 23. « Je disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. » Si vous lisez la suite, vous verrez qu'il se ressaisit. Mais voyez, quand on souffre, on dit des bêtises. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je disais dans ma précipitation, voilà, le Seigneur m'a abandonné. Oui, il est dans la misère, il est dans l'angoisse, il est dans les tourments, il est dans les pleurs, son corps, ses os, son âme, tout ça, il est abattu. Et voilà, il finit par dire, je disais dans ma précipitation, voilà, Dieu m'a abandonné, je suis chassé loin de ton regard. Mais ce psaume, bien sûr, est là dans la Bible, donc il est inspiré, et il nous prouve que cet homme expérimente la bonté de Dieu. Parfois les gens disent, ah mais moi je suis comme David, je me plains. Mais David, il ne se plaignait pas près des gens. Il parlait à Dieu. Je pense que c'est quand même une grande différence. Est-ce que vous comprenez? C'est une chose de répandre son cœur devant Dieu, ça n'est une autre que de se plaindre toujours devant les gens. Ce n'est pas du tout le même acte de foi, croyez-moi. Il expérimente la bonté de Dieu. La preuve, ça fait que ce psaume, depuis des millénaires, il encourage des millions de chrétiens qui comprennent que malgré les angoisses, malgré la misère, malgré le deuil, malgré la souffrance, on peut voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu ressort énormément dans ce psaume, on n'a pas le temps de le lire ce matin. Il encourage les autres. Bien sûr qu'il y a des chrétiens, eux, qui sont bloqués sur le verset 23a. Ils sont bloqués toute leur vie là. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de toi. Il y a des gens, le psaume 23, il faudrait qu'ils prennent. Le psaume 31, il faudrait qu'ils ne prennent que le verset 23, qu'ils enlèvent tout le reste. Et ça correspondrait à ce qu'ils vivent. Ils, tout le temps, dans leur précipitation, dans leur souffrance, ils disent, je suis chassé loin de toi. Ça fait qu'ils sont en train de confesser que Dieu n'est pas si bon qu'on le chante. Parce que le problème, il est là. Qu'on exprime sa souffrance, c'est une chose, mais qu'on la communique aux autres, là, je crois que ça commence à être difficile. Parce que vous le vouliez ou non, tous ces raisonnements, tout cet abattement finissent par dire que Dieu n'est pas si bon qu'on le dit. Ces promesses, oui, il y a des promesses. Bon, Mais moi, je ne les vis pas. Quand on commence à parler comme ça, c'est que Dieu n'est pas si bon qu'on le chante. Si vous comprenez pourquoi Pierre dit, mais si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Car il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas expérimenté la bonté du Seigneur. Sur la terre, vous avez eu des amis. Vous en avez encore aujourd'hui, j'espère. Si un ami vous abandonnait parce que vous êtes dans la difficulté. Tiens donc, prenons les choses terre à terre. Si un ami vous abandonne parce que vous êtes dans la difficulté, est-ce que vous le considérez comme quelqu'un de bon ? Est-ce qu'on peut traverser des difficultés ? Et des amis peuvent vous rejeter. Donc, si un ami vous rejette parce que vous êtes dans la difficulté, vous vous êtes amené à dire « ce gars n'est pas si bon que ça ». Et vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on le fait avec quelqu'un, ce n'est pas trop grave, même si on s'est trompé. Mais quand on le fait avec Dieu, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus grave. Comment nous nous comportons dans telle et telle déception ? Parce que des déceptions, on en a eu. Comment je me comporte dans une déception ? Comment je me comporte, tiens les jeunes, dans une déception amoureuse ? Est-ce qu'il y en a des déceptions amoureuses ? Est-ce que c'est normal une déception amoureuse ? Bien sûr, c'est normal. On peut se tromper. On a envie de fréquenter telle personne, elle nous convient, et puis au bout de 3 mois, on se rend compte que ce n'était pas la fille qu'il nous fallait, ou, etc., etc. C'est une déception. Est-ce que j'en veux à Dieu ? Mais Dieu aurait pu me le montrer. Est-ce que Dieu peut permettre des choses comme ça ? Bien sûr, nous, qu'on est dans un état de perfection totale, on ne veut pas ces choses. Mais est-ce que ça peut arriver ? Mais bien sûr que ça peut arriver. Comment je me comporte dans telle déception professionnelle ? Ce qu'a vécu Caroline, elle aurait pu abandonner Dieu. Elle a souffert, cette jeune fille. Elle vous a exprimé son témoignage, mais moi je peux vous dire qu'elle a vraiment souffert. Et elle aurait pu abandonner Dieu. Oui ou non ? Mais le Seigneur, voilà, j'ai bossé pendant des années pour être infirmière, maintenant je ne peux plus exercer mon métier, et bien c'est ça, je me suis trompé, Dieu m'a trompé. Voilà, maintenant la médecine du travail, elle aura le crayon à porter. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que tout ça c'était conduit par Dieu ? Mais Dieu est souverain. Mais combien ont abandonné Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté une déception, une souffrance au niveau professionnel ? Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Alors quand on le dit dans la précipitation et que c'est qu'un petit point dans tout le cursus, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y a des gens, c'est leur vie. Et leur vie entière, ils se trompent. Le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'abandonne. Il vaudrait mieux tout simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'y comprends rien, je t'avoue, Seigneur, je comprends pas, j'y comprends rien. Mais je sais que tu es bon. Et à cause de cela, je te demande de marcher dans ta volonté. Il sait ce qui est bon pour vous. Au temps des juges, on l'a vu, je crois, dimanche dernier, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais je peux vous dire que c'était pas si bon que ça. Mais ça leur semblait bon. Quand on voit aujourd'hui les infos, vous avez vu, tous les gens qui interviennent par rapport à ci, par rapport à ça, je suis sûr que dans leur cœur, ils le font, ça leur semble bon. Mais il faut voir ce que Dieu en pense. Dieu sait, c'est pour ça, comme je l'ai dit dimanche dernier, que Dieu, quand il se présente comme le bon berger, il dit ça pour nous aider. Bon, il est bon, il est le berger, moi je suis qu'une brebis, je ne sais pas trop où il faut aller, mais toi, tu es un Seigneur, tu le sais. Pourquoi il nous dit cela ? Parce qu'il sait, et on le voit, il faut être honnête, que parfois nous serons amenés, nous serons tentés de douter. Jérémie, c'est ça craint quand même ce qu'il est en train de traverser. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu sait que même si nous sommes des vainqueurs, il arrivera des moments où nous pouvons douter. Douter de sa bonté. On sait qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. Mais Paul dit, oui, mais si justement Dieu a donné sa vie, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Alors, quelles sont vraiment nos pensées ? Je parlais tout à l'heure des amis. Je peux me tromper par rapport à un ami. Est-ce qu'on connaît bien nos amis ? Mais est-ce qu'on connaît bien Dieu ? Est-ce qu'on peut se tromper par rapport au Seigneur ? Quelles sont nos pensées vis-à-vis du Seigneur ? Soyons honnêtes, j'ai souvent utilisé ce mot. Est-ce que je suis honnête ? Ce matin, on est là, sous le regard de Dieu, on a chanté, on a pris la Sainte-Seine, on se trouve ensemble, c'est super. Mais quelles sont mes pensées vis-à-vis de Dieu ? Parce que vous savez, on peut s'habituer à avoir de mauvaises pensées. Est-ce que vous le savez ? On peut s'habituer à avoir de mauvaises pensées au sujet des gens et se tromper. Ça, je ne vous apprends rien. Et c'est encore bon, j'allais dire, bon, c'est pas bien parce qu'on se fourvoie dans de mauvais chemins, mais imaginez-vous quand on commence à avoir de mauvaises pensées par rapport à Dieu. Des pensées qui petit à petit finiront par nous éloigner de Dieu, nous séparer de Dieu. Si je commence à douter de la bonté de Dieu, je suis presque sûr que petit à petit, je vais me détourner de lui. Ça va provoquer de l'incrédulité. Tiens, oui, je parle de Caroline parce qu'elle a donné son témoignage. Tiens, j'ai étudié pendant 4 ans pour être infirmière. Et j'ai exercé mon métier. Tiens donc, Dieu n'est pas si bon qu'il le dit. Et petit à petit, mes pensées, même si je chante qu'il est bon, sont en train de me séparer de la bonté de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a dit « Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée ». Parce que chanter que Dieu est bon, c'est bien, mais il vaut mieux d'abord le penser vraiment. Le péché nous sépare de Dieu. Vous êtes d'accord? J'espère que j'apprends rien à personne. Le péché nous sépare de Dieu, mais les mauvaises pensées, vous croyez qu'elles nous approchent de Dieu? Quand on a de mauvaises pensées par rapport à ce que Dieu a dit, mais croyez-moi, elles faussent toute notre vie spirituelle et nous sommes obligés de nous éloigner de Dieu. Alors il y a une frustration pas possible, je chante que Dieu est bon, on chante des cantiques extraordinaires. Moi ce matin je me suis réjoui quand on a chanté. Et vous vous rendez compte, après nos pensées nous éloignent de Dieu, vous vous rendez compte, la frustration. Regarde, au niveau humain, parce que c'est bien de faire la comparaison, au niveau humain c'est quand même dur quand un ami ne nous comprend plus et qui nous prête de mauvais sentiments. Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et que les gens ne vous comprennent pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que, bon, les inconvertis, mais qu'un ami ne vous comprenne pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bien sûr, on a tous vécu ça, mais c'est pas bien parce que ça nous a affligé, on nous a jugé parce qu'on a fait quelque chose, ça a été mal compris, etc., etc. Mais imaginez-vous au niveau de Dieu, quand ça se passe au niveau de Dieu. Alors vous pouvez dire, ah, mais c'est pas grave, comme je l'entends souvent, c'est pas grave, Dieu connaît mon cœur. Mais ça règle rien. Il faut savoir ce que Dieu dit. Et nous, on dit, oui, c'est pas, tu sais, c'est innocent. Et ça peut l'être en plus. Mais il faut voir ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Dieu dit pas, bon, tu n'as pas fait attention. Dieu appelle ça parler contre lui. Vous comprenez? On va prendre un exemple. Dans le psaume 78, c'est important, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas que le péché qui nous sépare de Dieu. Vous savez, quand on est pasteur, depuis, ça va faire 30 ans cette année, on s'en pose des questions. Vous comprenez qu'on se pose des questions. Pourquoi une personne abandonne Dieu? Est-ce qu'on peut se poser la question? Bon, on dit c'est le péché. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que le péché qui éloigne les gens de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous voyez que la mauvaise façon de penser peut vous éloigner du Seigneur. Dans le psaume 78, on va lire que ce qui nous intéresse. Alors, on va lire au verset 16. Comment Dieu est bon. Parce que si vous lisez le psaume 78, alors là vous êtes obligé de voir que Dieu est bon. Dieu est bon, regardez. Alors, du rocher il fit jaillir des sources, écouler des eaux comme des fleuves, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, ça commence dans le cœur, croyez pas, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Bon, au verset 22, vous regardez, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance. Bon, quand on lit ça pour la première fois, sérieusement, moi je me souviens quand j'ai lu ça pour la première fois, on voit une question, tiens, Dieu pourrait-il bénir, Dieu pourrait-il faire ci? Mais ces paroles, on l'a lu, en vérité, montrent un manque de confiance. Moi j'ai vu, ce qui nous fait le plus souffrir, enfin moi, pour moi en tant que pasteur, c'est quand une femme est stérile, qu'elle est mariée bien sûr, et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a une souffrance dans le cœur de ces femmes. C'est plus dur à gérer qu'un deuil. Enfin, pour moi, en tant que pasteur, c'est les choses qui m'ont été le plus difficiles à gérer. Et certaines femmes, à cause de leur stérilité, ont abandonné Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des épreuves qu'on ne peut pas, nous, hommes, comprendre, mais c'est des vraies épreuves. Et je prends un exemple très fort exprès pour ne pas juger. Parce que quand c'est douloureux, on a tendance à être beaucoup plus miséricordieux. Mais mes frères et sœurs, le problème, c'est que comme le péché nous éloigne, les mauvaises pensées nous éloignent de Dieu. C'est un manque de confiance. Parce qu'on n'a pas goûté la bonté du Seigneur, on ne lui fait pas confiance. Dieu est bon, mais vous plaisantez. Dieu est bon, et il conduit son peuple dans le désert. Parce que quand même, bon, Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Oui ou non? Ah bon? Et vous dites que Dieu est bon? Oui, parce que c'est ça. On est dans le vif du sujet. Dieu, un Dieu bon qui conduit son peuple dans le désert, mais que c'est une plaisanterie. Est-ce que Dieu peut conduire l'Église dans un désert? Est-ce que Dieu peut me conduire dans un désert? Est-ce que... Mais c'est pas possible! Mes frères et sœurs, mais qui je suis, moi? Qui je suis? Quand vous lisez l'Exode, vous voyez l'intention de Dieu qui voulait qu'avant qu'il ne découvre le lait et le miel, il découvre vraiment Dieu. Et qu'il découvre le cœur de Dieu, à craindre Dieu, à offrir un culte à Dieu. Mais ça, ça ne les intéressait pas. Peut-être que le perfectionnement, ça ne vous intéresse pas. Ce sujet vous intéresse. Peut-être juste parce que entrer dans le repos de Dieu, c'est très, 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 très intéressant. Mais rentrer dans le repos de Dieu pour ne rien faire, ça va causer d'autres luttes. On entre dans le repos de Dieu pour être efficace pour Dieu. Et quand on en arrive à poser des questions, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Vous comprenez bien, Dieu l'avait déjà fait, mais cette question, elle montre qu'ils ne comprennent absolument rien à la bonté de Dieu. C'est vraiment douter de sa bonté. Ah ben, Dieu ne me donne pas de gosse. Est-ce que Dieu peut donner un gosse à n'importe quelle femme stérile? Mais bien sûr, mais c'est évident, c'est Dieu qui donne la vie. Mais nous avons le choix ou de faire confiance en sa bonté ou de parler dans la précipitation et dire oui, c'est comme ça, mais je m'en vais. Si c'est comme ça, j'abandonne Dieu. Si c'est comme ça, je vais dans une autre église. Si c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème, c'est que nous allons empêcher Dieu d'agir parce que nous ne lui faisons pas confiance. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer les temps et les circonstances? Est-ce que vraiment vous croyez? Mais moi, je le crois. Est-ce que Dieu vraiment peut dresser une table en face de nos adversaires? Le psaume par cœur, il fait partie de ces psaumes que j'ai appris par cœur. Le psaume 23, il fait partie de ces psaumes que j'ai appris par cœur. Je le connais par cœur. Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais dans l'épreuve, que je ne le connaissais pas. Mais je le connaissais par cœur. Parce qu'il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et dans l'adversité que je ne comprenais pas, je n'ai pas du tout pensé à ce verset. Pourtant, on me redit, récite le psaume 23, je pouvais le réciter par cœur. Comme quoi, voyez ce que l'on dit et ce que l'on vit. Et moi, je crois que Dieu peut dresser une table en face de nos adversaires. Est-ce que vous le croyez? Mais s'il est votre berger, si vous lui faites confiance. Et nous devrions réfléchir. Moi, je ne suis pas porté sur l'introspection, parce qu'on ne le voit pas dans la parole de Dieu. On ne le voit pas. Mais quand même, c'est intéressant pourquoi j'ai dit ceci. Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi je me pose telle question au sujet de ceci ou au sujet de cela? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi telle promesse ne s'est pas accomplie? On le voit ça dans la Bible. Dieu est-il au milieu de nous? Vous voyez? Quand ils étaient dans le désert, alors là, bien sûr que Dieu était au milieu d'eux. Quand la mer Rouge s'est ouverte, alors là, ils ont chanté. Mais quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils déchantaient. Croyez-moi, et ils ont dit, Dieu est au milieu de nous. Et Dieu appelle ça, tentez Dieu. Et vous savez que c'est un des 10 commandements, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Mes frères et sœurs, oserions-nous faire Dieu menteur? Personne n'oserait dire, Dieu est un menteur. Et pourtant, quand on parle, oui, si Dieu n'a pas fait ça, c'est parce que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Moi, je crois que si Dieu n'a pas fait ça, c'est que ce n'était pas du tout bon pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu fait des promesses qu'il va absolument les accomplir. Parce qu'elles peuvent nous être nuisibles, alors que telle épreuve peut nous être profitable. Est-ce que vous le croyez ça? Qu'une promesse peut vous être nuisible et qu'une épreuve peut vous être profitable. Est-ce que vous le croyez? C'est ça le repos de la foi. Seigneur, j'accepte les bénédictions et Dieu vous bénira. Si vous avez accepté Jésus, il vous bénira. Si vous savez que Dieu est... Même si vous n'êtes pas chrétien, parce que la Bible dit que Dieu est bon envers les ingrats et envers les bons. C'est écrit? Mais bien sûr que la bonté du Seigneur est envers ceux qui le craignent. Il y a quand même un certain degré que si vous prenez une concordance, et vous allez voir que la bonté du Seigneur est envers ceux qui lui font confiance, etc., etc. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils vivent avec des impressions. Moi, la parole que j'ai le plus entendue depuis que je suis pasteur, écoutez bien, c'est pas j'ai confiance en Dieu. La parole que j'ai le plus entendue dans la bouche des chrétiens depuis 30 ans est celle-ci. J'ai l'impression que... Voilà la parole que j'ai le plus entendue. Ça nous prouve que beaucoup de chrétiens vivent davantage avec ce qu'ils pensent, avec leurs impressions, avec leurs pensées, qu'avec ce que Dieu dit. Et imaginez un instant, puisque je parlais du terre-à-terre, imaginez combien certaines mamans se sentiraient insultées si on pensait qu'elles soient capables d'abandonner leurs enfants. Certaines mamans. Il y a des mamans parmi nous? Bon. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas insulté si moi je pensais de vous, oui, cette femme, elle est capable d'abandonner son gosse? Est-ce que vous vous sentiriez insulté? Peiné? Oui ou non? Il y a des mamans? Levez les mains, les mamans. Ou les grand-mères. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que franchement, vous ne vous sentiriez pas insulté? Vous n'êtes qu'un être humain. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que même si une maman abandonnait son fils, son enfant, Dieu ne le ferait pas, que nous sommes gravés dans ses mains. Et il faudrait peut-être relire les textes sur la bonté du Seigneur. Est-ce qu'on loue l'Éternel pour sa bonté? Est-ce que c'est demandé dans la Bible ça? Louer Dieu pour sa bonté? Ou est-ce qu'on attriste Dieu par nos plaintes? Parce que, est-ce qu'on peut attrister Dieu par nos plaintes? Eh bien sûr. Alors, on peut attrister le Saint-Esprit, mais pourquoi tant de chrétiens? Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup gêné. Des gens qui parlent de l'Esprit, en veux-tu, en voilà, qui sont tout le temps en train de décourager les autres. Parce qu'en vérité, ils attristent Dieu par leurs plaintes. Et nous ne devons pas chanter que Dieu est bon. Nous devons d'abord le penser. Et vous allez voir que quand vous le chanterez, ça va rejaillir avec conviction sur les autres. Bien sûr que notre monde est une épave. Notre monde est une épave. Un bateau épave. Alors, je vois que l'heure a tourné. Je en reparlerai par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, cette manifestation qui est à Paris. Je vous en reparlerai parce que je pense que c'est très important. Est-ce qu'il faut s'occuper de l'épave, du bateau qui est en train de prendre l'eau? Quel que soit le gouvernement, le bateau sera une épave. Ou est-ce qu'il faut s'occuper des gens sur le bateau pour les sauver? Alors, ça sera l'objet de notre prédication pour qu'on comprenne bien, parce que des fois, je ne prends pas position par rapport à certains sujets de société. Peut-être ça peut vous étonner, mais je veux vous l'expliquer. Parce que je pense que ça nécessite une explication. Mes frères et sœurs, ne luttez pas avec la volonté de Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Dieu a lutté avec Jacob. Jusqu'à ce qu'il s'abandonne entièrement. Il y a eu des épreuves, je l'ai dit tout à l'heure. Mais mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Dieu est bon. Vous entendez? Il est bon. Et il sait ce qu'il doit faire. Vous avez vu? On relit juste pour terminer ce qu'on a lu. Comment cet homme plein d'amertume, plein d'absinthe, plein de douleur, en est arrivé de nouveau à connaître la bonté de Dieu. Alléluia, la bonté de Dieu. Il est bon le Seigneur, mes frères et sœurs. Il est bon pour qui espère en lui. Vous avez vu le verset 5, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Ah, imposez, monsieur, ah, moi je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose. Et ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Écoutez-moi, vous croyez que si Dieu vous impose le silence, c'est pour vous ennuyer? Si Dieu vous impose de vous tenir seul dans le silence, c'est parce qu'il veut vous parler et parce qu'il veut vous bénir. Il est bon. Ça, c'est bon. Vous comprenez? Même si vous êtes dans l'amertume, vous êtes dans l'absinthe, parlez-en à Dieu. Bien sûr, si vous avez des amis proches, vous pouvez en parler pour prier avec eux. Mais posez-vous la question, est-ce que mes paroles découragent les autres? Parce que vous savez, quand on est fatigué, combien de fois Madame Delarbre, pour ne pas citer son nom, mais Monsieur Gaud, ne soyez pas fatigué. Parce que quand on est fatigué, on fatigue les autres. Hein? Pensez qu'à vous, madame. Vous pensez à moi ou à vous? Aux deux, je pense. Mais c'est bien. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est bon. Avez-vous goûté que Dieu est bon? J'espère que vous avez goûté que Dieu est bon. Et si vous ne l'avez pas goûté, eh bien, qu'à partir d'aujourd'hui, vous le goûtiez. Mais que vous ne vous éloignez pas de Dieu par vos pensées. Car croyez-moi, on peut s'éloigner de Dieu par ses pensées. Jérémie est déterminé. Je veux espérer en Dieu. Je veux repasser dans mon cœur. Repasser dans votre cœur les bontés du Seigneur. Elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever, je vais demander à Madame Bourdel, s'il vous plaît, de bien vouloir rendre grâce au Seigneur Jésus, s'il vous plaît.